Chapitre 18. Le lundi matin, Joe chargea la première fournée de linge dans la lessiveuse en gémissant. « Je disais, commença-t-il, ne me parle pas, » grogna Martin. « Excuse-moi, Joe, » lui dit-il à midi pendant la pause. L'autre eut les larmes aux yeux. « Il n'y a pas d'offense, vieux, » fit-il. « En enfer, on met pas de gants. Et puis tu sais, je t'aime bien. C'est pour ça que ça m'a fait mal. Je t'ai eu à la bonne dès le premier jour. » Martin lui serra la main. « Si on démissionnait, » suggéra Joe, « on plaque tout et on prend la route. J'ai jamais essayé, mais ça doit être vachement bonnard d'être cheminot. T'as rien à foutre. T'imagines ça un peu? Rien à foutre. J'ai été malade une fois, la typhoïde à l'hôpital, et c'était la belle vie, tu sais. Je voudrais bien retomber malade. » La semaine s'étira. L'hôtel était complet et les amis d'onage de fantaisie affluaient. Ils accomplirent des prodiges, travaillant tard chaque nuit, à la lumière électrique, mangeant sur le pouce et s'octroyant même une demi-heure de labeur supplémentaire avant le breakfast. Martin renonça à ses bains froids. Il n'avait pas un instant de répit. Joe était le gardien de leurs minutes. Il les comptait comme un berger compte ses brebis, un avare son or, automate frénétique, aidé dans ses gesticulations mécaniques par un autre automate qui se souvenait d'avoir été jadis un homme nommé Martin Eden. Mais Martin n'avait guère le temps de se pencher sur son passé. Sa mémoire était une maison sans porte ni fenêtre, habitée par des ombres. Il n'était lui-même qu'une ombre. Joe avait raison. Ils étaient tous deux des fantômes. Tel était le sort du travailleur, à moins que ce ne fût un rêve. Parfois, dans la chaleur étouffante, tandis que son fer allait et venait sur les parures blanches, il se disait que c'était seulement un rêve. Dans un court instant, ou dans 1000 ans, il se réveillerait dans sa petite chambre, devant sa table tachée d'encre, et reprendrait ses travaux de plume où il les avait laissés la veille. Mais peut-être cela aussi était-il un rêve. Peut-être ne se réveillerait-il que pour relever l'homme de quart. Il s'extirperait pesamment de son hamac dans le poste d'équipage ballotté par le roulis et monterait sur le pont, sous les étoiles des tropiques, pour tenir la barre dans la fraîche caresse des alizés. Vint le samedi, et sa morne victoire de 3 heures. « Je crois que je vais aller écluser un boc au village, » dit Joe de cette étrange voix monocorde qui accompagnait son évanouissement de fin de semaine. Martin parut soudain se réveiller. Il ouvrit sa trousse à outils, graissa sa bicyclette, mit du graphite sur la chaîne et ajusta les pédales. Joe était à mi-distance du saloon quand Martin le dépassa, penché sur le guidon, poussant sur son grand braquet, prêt à affronter 70 miles de route poussiéreuse. Il dormit à Auckland et fit le voyage de retour le dimanche. À la reprise du travail, le lundi matin, il était fourbu, mais n'avait pas bu une goutte d'alcool. Une 5e semaine passa, puis une 6e, durant lesquelles il vécut et trima comme une machine, mais avec une toute petite étincelle de vie en plus, un tout petit souffle d'âme qui lui donnait l'énergie d'avaler ses 140 miles de route chaque week-end. Mais ce n'était pas pour le plaisir. C'était un exercice forcé, éreintant, qu'il s'imposait pour se prouver qu'il était encore en vie. Au bout de la 7e semaine, trop épuisé pour résister à la tentation, il se laissa entraîner vers le village, où il se noya avec Joe dans la boisson et les faux paradis, jusqu'au lundi matin. Les week-ends suivants, il s'infligea de nouveau les 140 miles de l'aller et retour, palliant le vertige d'une trop grande fatigue par le vertige d'une fatigue plus grande encore. À la fin du 3e mois, il retourna une 3e fois au village avec Joe. Il oublia, revécut et, revivant, visualisa dans une illumination la bête qu'il était en train de devenir, non à cause de la boisson, mais à cause du travail. La boisson n'était que l'effet, ce n'était pas la cause. Elle suivait le travail aussi inévitablement que la nuit suivait le jour. Ce n'était pas en se transformant en bête de somme qu'il atteindrait les cimes, tel était le message que lui murmurait le whisky. Et le whisky était plein de sagesse. Le whisky révélait Martin à lui-même. Il demanda du papier et un crayon, commanda une tournée générale, et tandis que les autres buvaient à sa santé, il s'accouda au bar pour griffonner quelque chose. « C'est un télégramme, Joe, » dit-il. « Lis-le. » Joe le parcourut d'un œil vitreux. Mais ce qu'il lut le dessoula. Il jeta à son compagnon un regard chargé de reproches, et des larmes ruisselèrent sur ses joues. « Tu vas pas me laisser tomber, » dit Marthe. demanda-t-il avec désespoir. Martin confirma d'un signe de tête et pria l'un des flâneurs qui hantait le saloon de porter son télégramme à la poste. « Attends, » marmotta Joe d'une voix pâteuse, « laisse-moi réfléchir. » Et il s'agrippa au bar pour réfléchir, les jambes flageolantes, soutenues par le bras de Martin. « Écrit « Deux blanchisseurs », dit-il brusquement. « Et allez-y donc, ça règle la question. Pourquoi tu démissionnes ? Même raison que toi. Mais je vais prendre la mer, tu peux pas faire ça. Nenni, mais je peux prendre la route, tiens. » Martin le sonda du regard, puis s'écria. « Tudieu, je peux pas te donner tort. Mieux vaut être vagabond que bête de somme. Et pardi, tu vivras au moins. T'as jamais connu ça, toi ?»« Si, si, j'ai été à l'hôpital une fois, » corrigea Joe. « C'était la belle vie, la typhoïde. Je te l'ai jamais dit ?» Pendant que Martin changeait le texte de son télégramme en notant « deux blanchisseurs », Joe continuait. « J'avais jamais envie de boire à l'hôpital. C'est drôle, hein ? Mais quand j'ai marné comme un esclave pendant toute une semaine, faut que je me quitte. T'as jamais remarqué que les cuistots buvaient comme des trous ? Et les boulangers aussi. C'est le boulot. Peuvent pas faire autrement. Tiens, laisse-moi payer la moitié du télégramme. » « Je te le joue au dé, » proposa Martin. « Allez, là, à boire pour tout le monde !» s'écria Joe en faisant rouler les dés sur le comptoir humide. Le lundi matin, Joe était fébrile. Il ne se souciait ni de sa migraine, ni de son travail. Les troupeaux de minutes qu'il avait si jalousement gardés s'égaillaient dans la nature, tandis que le berger insouciant contemplait le soleil et les arbres par la fenêtre. « Regarde-moi ça !» s'exclamait-il. « Tout ça est à moi, gratuitement. Je peux me coucher sous ces arbres et dormir 1000 ans si ça me chante. Allez, viens, Martin, on met les voiles. À quoi bon attendre plus longtemps ? C'est le pays de la Sainte Flemme que tu vois là, et j'ai un billet pour y aller, et pas de billet de retour, foi de Joe. » Quelques instants plus tard, en chargeant la charrette de linge sale pour la lessiveuse, Joe guetta la chemise du directeur de l'hôtel. Il en connaissait la marque, et, avec un soudain et glorieux sentiment de liberté, il la jeta sur le sol et la piétina. « Dommage que tu sois pas dedans, cochon de Hollandais » cria-t-il. « Dedans, en place où ma semelle, prends ça, et ça, créneau, retenez-moi ou je ferme à l'heure, retenez-moi » Martin éclata de rire et le ramena à son travail. Les nouveaux blanchisseurs arrivèrent le mardi soir et on consacra le reste de la semaine à leur enseigner la routine. Joe restait assis et leur expliquait ses méthodes sans bouger de sa chaise. « Fini le boulot » décréta-t-il. « Je lèverai pas le petit doigt. Ils peuvent me virer, mais s'ils font ça, je me tire tout de suite. J'ai assez donné, merci bien. À moi les balades en wagon de marchandises et les siestes sous les arbres. À vous de bosser, esclaves. Allez, une bonne suée, prenez de la peine. Quand vous serez mort, vous pourrirez comme moi, alors peu importe comment on vit. Au bout du compte, on en sera tous au même point, pas vrai ?» Le samedi, ils encaissèrent leur paix et se rendirent à la croisée des chemins. « Inutile que je te demande de changer d'avis pour faire la route avec moi, » dit Joe sans espoir. Martin lui tendit la main, et Joe la serra longuement, avant de reprendre « Je te reverrai un jour, Marthe, avant notre mort. C'est sûr et certain, je le sens dans mes tripes. Au revoir, Marthe, et porte-toi bien. Je t'aime vraiment bien, tu sais. » Et, silhouette solitaire plantée au milieu de la route, il regarda Martin s'éloigner et disparaître au tournant. « C'est un bon gars, ce type-là, » murmura-t-il. « Un bon gars. » Puis, il chemina à son tour vers la citerne, où une demi-douzaine de récipients vides, au bord d'une voie secondaire, attendaient le prochain convoi.